Bon, on arrive au Shlushim. Demain soir, c'est les Shlushim. Déjà 30 jours. Et on va essayer de dire qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ce que nos yeux ont pu voir dans notre génération. Ceux qui ont eu la chance de le voir, ils ont eu la chance, ceux qui n'ont pas eu la chance. Alors, il faut savoir la chance qu'on a eue de pouvoir connaître encore un rave pareil dans une génération aussi pourrie. D'accord, c'est des gens qui ne vivaient pas dans ce monde, des gens qui ne vivent pas dans notre génération, qui vivent pas dans notre temps, qui sont dans un monde complètement différent que le nôtre. Ils vivent dans un monde qui est Kulotorah. Kulotorah, que de la Torah, que de la Torah, que de la Torah. Leur vie, c'est que comment faire le mieux. C'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Comment faire le mieux? Ils ne pensent pas ni à l'argent, ni aux honneurs, ni aux petits problèmes que le robinet d'eau il est cassé, ni aux petits problèmes qu'il fait froid quand on se lève le matin, ni aux petits problèmes qu'on est un petit peu fatigué. Non. Rien à faire. Juste avant Rosh Hashanah, j'étais chez Rav Ovadia. J'avais une question très importante à poser et c'était la semaine d'avant Rosh Hashanah. Et bon, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui sait qu'il peut me faire entrer là-bas. Il pouvait me faire entrer là-bas puisque il était pendant longtemps le shamash du Rav. Et encore aujourd'hui, il s'appelle Shalom Saadon. D'accord. Et encore jusqu'à la ptira du Rav, c'est un monsieur qui était comme ça avec le Rav. D'accord. Tout ce que... Il avait un très bon kécher. C'est-à-dire, c'est lui qui a, à la demande de la rabbanite Margalit, Zichrona Livracha, qui a organisé toute la construction de la yeshiva. C'était la femme du Rav. Qui a organisé toute la construction de la yeshiva, d'accord, de Hazon Ovadia. C'est lui qui a tout fait, ce monsieur là et bon, je l'appelais pour qu'il me fasse rentrer chez le Rav, et c'était le jeudi, et il me dit: écoute, chez le Rav, je peux pas te faire rentrer. Le Rav vient de rentrer, il est rentré aujourd'hui à l'hôpital encore une fois en urgence, machin et tout. Il me dit, mais je lui dis, bon, Bessader, et chez Rav Yitzhak, qui est maintenant le Rishon Lezion, d'accord, le fils du Rav Vadia. Il me dit, le Rav Yitzhak, qui vient de prendre ses fonctions de Rishon Lezion, c'est quimat impossible de le... Il me dit, mais va à la tefila demain chez Rav Vadia. Et mistamak, le Rav Yitzhak, il y sera, puisque son père, il n'y est pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je racontais, Atkama, un homme, il est prêt pour... Encore un peu. Et bon, je suis allé à la tefila chez Rav Ovadia. C'était le vendredi matin. Et je ne m'attendais pas du tout à voir Rav Ovadia, puisque pour moi, la veille, à 10h du soir, il était à l'hôpital. Je ne m'attends pas à voir Rav Ovadia à la choule. Et bon, on fait la tefila, et quand on va là-bas, c'était comme ça, quoi. Ils ouvrent vers 7h moins 10. Encore la maison du Rav, tu rentres là-bas dans la choule. Et le Rav, il rentre à 7h15 pour Ishtabar. Lui, il a déjà commencé à prier là-haut dans sa maison, et il rentre à 7h15 pour Ishtabar. Alors, je vois Rav Moshe qui arrive. Rav Moshe, c'est le fils du Rav Ovadia qui vivait avec lui pendant 20 ans, qui s'occupait de lui tout le temps, de tout. Et je le vois arriver avec une tête... Bon, pas bien, quoi. Mais bon, je comprends que... Le Rav, il ne doit vraiment pas être bien à l'hôpital. Puis arrive Ishtabah, Joel Khazan, il ne démarre pas. Makore, Moshe Haboushar, ceux qui connaissent, Khazan du Rav Ovadia. Et, bon, Makore, d'un coup la porte elle s'ouvre, le shamash du Rav, il arrive avec le Rav en fauteuil roulant comme ça. Le Rav, il est arrivé pour la tefila à la maison. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé quelques heures avant ou quoi, en tout cas il est arrivé. Il n'allait pas bien du tout. Ça se voyait sur son visage. On a l'habitude de voir Rav Ovadia quand il fait les cours. C'est un lion. Un lion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cours du Rav Ovadia, si vous l'avez déjà vu parler en vidéo. C'est un vrai lion. Postam, à 92 ans, d'accord? Un homme qui est capable de se mettre comme ça sur la table et dire devant des caméras, même au Premier ministre, je t'ordonne de faire ça. Et machin, avec une vigueur, une énergie. Ah, du coup, de le voir comme ça dans un fauteuil roulant, c'était déjà. Et à la fin du cours, à la fin de la tefila, tout le temps, il faisait une halakha, comme ici à la yeshiva on fait. Hein. Halakha du jour. Une souffrance. Hachem Mishmerim. Il n'arrivait plus à parler presque. D'accord? J'en ai rien à faire. Je vais quand même dire ma halakha. Et il s'est mis comme ça. Et il s'est pleuré. Parce qu'il n'arrivait pas à dire la halakha. Alors je vais quand même la dire. Encore, peut-être un petit enseignement. Le juif qui pourra entendre ça, parce qu'elles sont filmées, elles sont mises sur internet. Tous ces halakhot qui disaient tous les jours. Elles étaient filmées et mises sur internet. Encore un qui pourra entendre ça. Les akototo. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. On dit qu'après, il allait un peu mieux. Il a recommencé à écrire. Erpatlo. Vas, moi, je suis malade. Le peuple d'Israël a besoin de moi. Le peuple d'Israël a besoin que j'écrive. Quand on lit les livres qu'il a écrits tout le temps, à la fin, il écrit comme ça. Il dit que Hachem me donne les forces de continuer à écrire et qu'il fasse déborder les sources de ma Torah vers l'extérieur pour continuer à donner du mérite au peuple d'Israël. Juste. Dans une nation, pour voir c'est qui la personne qui est importante, on regarde à qui on donne du respect en général. En France, quand le président de la République il fait son défilé, d'accord, où il sort dans la rue, on ferme toutes les routes, il y a des barrières partout, tout le monde est comme ça pour regarder le président qui passe. On regarde comment le peuple et comment les gens importants, vers qui, à qui ils donnent du respect, à qui ils en donnent moins. Le pacoulin du coin, le paysan du coin, avec tout le respect que j'ai pour les paysans, mais le paysan du coin, ben, on n'a jamais vu qu'un premier ministre, il va s'arrêter pour le saluer. C'est lui qui va aller voir le premier ministre, mais c'est pas l'inverse. Il y a des hommes comme ça que, quand il y a 1 million de juifs qui vont les accompagner à leur dernière demeure, c'est pas pour rien. C'est pas Bechinam. Il n'y a aucun homme politique qui a mérité un enterrement pareil. Aucun roi qui a mérité un enterrement pareil. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas eu un rassemblement aussi grand de juifs au même endroit. D'accord. Toute l'histoire de l'État d'Israël, il n'y a personne qui a eu un truc pareil. 1 million de juifs, ils ne se trompent pas. Un homme qui a autant été décrié, autant lui a cassé du sucre sur le dos, autant. Maintenant, Pitom, juste après sa mort, tout le monde vient raconter c'est quoi son histoire qu'il a eue avec lui. Et le président, et le premier ministre, et le machin, et le ci, et le là, et sans lui, on n'était rien. Netanyahou, il a fait un esped. D'accord? Netanyahou, un esped, une oraison funèbre. D'accord? Il a dit, sachez que jusqu'à aujourd'hui, énormément des décisions de l'État d'Israël étaient prises par lui. Ça Omer, une chose pareille. Mais c'est un rabbin, il est assis dans sa maison en train d'étudier, qu'est-ce que tu veux chez lui? Vous avez entendu parler d'Entebbe? Vous savez c'est quoi l'opération Entebbe? Tout le monde a entendu parler ou pas? Dans les années 70, si je me souviens bien, 71 peut-être même, il y a un avion israélien qui a été pris en otage par des terroristes et qui a atterri en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais plus où. Hein?
Abidjan.
Qui a atterri là-bas et maintenant ils ont pris en otage tous les Israéliens qui étaient là. Le frère de Netanyahou, d'ailleurs, a été tué dans l'opération. C'est le seul mort qu'il y a eu. Et un autre mort qui a été tué par un soldat israélien.
Par un très jeune.
Hein?
Un très jeune. Quand
même. Ben, il était en service militaire, donc il ne pouvait pas être vieux. Et un autre juif, mais qui a été tué par l'armée israélienne, par erreur, parce que bon, ils ont dit à tout le monde de se coucher. Tout le monde s'est couché et lui s'est levé. Donc ils ont cru que c'était un terroriste, ils l'ont tiré dessus. Maintenant, l'opération Entebbe, à l'époque, celui qui était responsable de ça, si je me souviens bien, je crois que c'était Rabin. D'accord. Et Rabin, il a appelé le Rav Ovadia. Il a dit, voilà, on va ouvrir les négociations avec les terroristes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour rendre les otages. C'est pas stable, tout un avion qui est pris en otage, on parle pas de 20 personnes, d'accord ? Même pas, on parle pas d'une personne. On parle de près d'une centaine de personnes qui ont été prises en otage par des barbares. Et bon, Rabin, il demande au Rav Ovadia, il lui dit, voilà, on va décider de libérer des terroristes palestiniens qui ont du sang sur les mains. Est-ce que le Rav, il peut me donner une réponse, est-ce que c'est permis ou pas, al-pi al-ha ? D'accord ? Donc une responsabilité énorme. Il lui dit, et si c'est permis, alors que le Rav, il déclare un psak, officiel, que c'est permis. Comme ça qu'il n'y ait pas des... Vous connaissez les Israéliens, hein ? Ils sont très, très, très chauds. D'accord ? Ça veut dire quand il y a un ministre qui va un peu dévier, où ils ne vont pas être d'accord avec... surtout quand ça touche à la droite israélienne, alors ça peut faire un carnage, d'accord ? Ça peut descendre dans la rue, s'enflammer très vite. Ouais, on a vu à l'époque des accords d'Oslo, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues qui clamaient la mort de Rabin. D'accord, à tel point, ici, les gens ils sont attachés à leurs idéaux. Et bon, alors Rabin, il avait peur que si on commence à rendre des terroristes sans accord de la halakha, la moitié du pays vont m'offrir en sacrifice, quoi. Donc il a dit au Rav, le Rav il me donne si c'est permis, que le Rav il publie une autorisation comme quoi c'est permis à le halakha. Et le Rav, il lui dit, bon, je te réponds demain. Donne-moi 2 jours, donne-moi 48 heures, je te réponds. Il le rappelle le lendemain. Il lui dit, voilà, je te permets, tu as le droit de rendre pour libérer ces juifs-là le nombre de terroristes qu'il y a besoin de libérer. D'accord ? Et je vais publier ça dans les médias, je vais faire venir la radio, je vais déclarer ça officiellement à la radio, que c'est moutard et qu'il n'y a personne qui a le droit de pas être d'accord. Ça. Okay, celui qui n'est pas d'accord, il n'a rien compris. Mais que c'est moutard. Et il lui dit, mais pourquoi vous ne pensez pas à l'attaque militaire ? Et Rabin lui répond, pourquoi vous ne pensez pas à une opération militaire ? Le Rav dit ça à Yitzhak Rabin. Pourquoi vous ne pensez pas à une opération militaire ? Et Rabin lui répond, toutes les options sont ouvertes. Nié Bekesher. On sera Bekesher. On se rappelle. Toutes les options sont ouvertes. À ce moment-là, bon, ok, bye. Lendemain matin, bon, l'histoire que tout le monde connaît, les soldats israéliens atterrissent sur à l'aéroport, là-bas, en TB. Justement, c'est en TB. Ils atterrissent là-bas et ils libèrent tous les otages israéliens. Ils les ramènent dans les avions militaires en direction d'Eretz Israël. À 8h du matin, le téléphone du Rav sonne. C'est Yitzhak Rabin qui lui dit, voilà, je te dis quelque chose, mais tu le gardes jusqu'à ce que les avions atterrissent en Israël. Tu dis rien à personne parce que...
Il dit
ça au Rav. On vient de terminer l'opération militaire. On a libéré tous les enfants juifs et tous les otages, femmes et enfants israéliens et hommes. Il lui dit, je voulais que tu sois le premier au courant. À part moi, personne d'autre au monde n'est au courant. Je voulais que tu sois le premier au courant parce que tellement tu voulais qu'il soit libéré. Tu as pris à cœur de trouver un éther, d'être prêt à libérer des assassins pour qu'un juif il soit libéré. Je voulais que tu sois le premier au courant. De quoi on est en train de parler? Vous allez en France, vous croyez que le Premier ministre il va demander au pape une autorisation de faire quoi que ce soit? Voilà. Netanyahou, il est venu chez lui il n'y a pas longtemps avant l'opération à Gaza. De l'année dernière, d'accord. Il y a une opération à Gaza. Ouais. Ouais, je sais plus laquelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est en janvier, là? Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Il est parti là-bas, il est allé le voir. Question urgente. On parle maintenant. Zorav, il était en train d'écrire une tchouva. Et Elisha, qui était le type du chasse, le responsable du chasse, donc du parti politique représenté par le Ravadja, il arrive au Ravadja et lui dit, Kvod Arav, le Premier ministre est là. Et le Rav continue à écrire. Même pas, il les entend. Kvod Arav, le Premier ministre, il est là. Netanyahou, il voit ça, il dit, Bseder. Laissez-le, quand il a terminé, une demi-heure. Netanyahou, il est resté debout à côté. Le Rav, il s'est même pas aperçu qu'il était là. Et il a continué ce truc. Le Premier ministre, ici en Israël, c'est l'homme qui a le plus de pouvoir. D'accord. Il te dit, Pseder, laissez-le. Après, il a demandé à ce que toute la salle soit évacuée. Je veux parler que en tête à tête, lui et moi. D'accord. J'ai des choses à lui demander. Il n'y a que moi qui dois être au courant et lui. Donc bon, ils discutent ensemble. À la fin, il fait re-rentrer les médias, les machins, tatati, tatati, puisqu'ils étaient tous là. Le Premier ministre, il est chez le grand rabbin d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit? La photo. Schlack! Vous connaissez Rav Vadjaï, mais... Ouais. Chac, la photo. Il lui met Tlecha, Netanyahou.
Quoi?
Il lui met Tlecha, Netanyahou. Rav Vadjaï, quand il recevait les gens, à la fin, qui leur parlait, il leur mettait une gifle. Genre, ça va, mon fils.
Une claque de
cowboy,
quoi.
Non, une gifle, comme ça. Maintenant, dis-moi. Tu reçois l'homme le plus important du pays. Tu lui mets une petite baffe devant les caméras. Genre, ah là. Et le Premier ministre, il était très content de prendre cette claque.
Ouais,
et même le président Shimon Peres, qui a l'âge du Rav Vadjaï. Comme c'est Shimon Peres, il est très vieux, il a plus que 90 ans, d'accord? On dirait pas comme ça. Mais il a plus que 90 ans. Combien de photos on voit? Il est chez lui parce qu'ils étaient très proches. D'accord? Shimon Peres, il allait chez Rav Vadjaï très souvent étudier avec lui. Ok, il avait le mérite, Shimon Peres, d'aller étudier avec Rav Vadjaï tous les Soukhot. D'accord? Non, toute la semaine, il pouvait venir. Et même à chaque fois, lui-même, il a dit qu'à chaque fois qu'il avait besoin d'étudier avec lui, il arrivait, le Rav Vadjaï, il s'arrêtait d'étudier pour lui accorder cette ravota. Et même si le Rav Yitzhak, il a dit une fois que c'était un de ses élèves les plus durs, Shimon Peres. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur très intelligent. Et qu'il a une réflexion très, très, très rapide. Et que des fois, tac, il a des questions de pilpouli, ma philo. Bien qu'il n'a pas grandi dans la Torah, qu'il est complètement à l'ouest. S'il avait grandi dans la Torah, peut-être qu'il serait devenu un grand rave. Mais il a dit que c'était même des cours parfois qu'il était obligé de préparer, le Rav Ovadia. Qu'il était parfois obligé de préparer quand il était en Chavruta avec Shimon Peres. Dans quoi? On le voit, il lui met des gifles. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est qui ici le boss? C'est le Premier ministre ou le Président? Ou c'est celui qui est assis devant ses livres? On a eu la Dougouma dans notre génération, Baruch Hashem, à Zachino. Il y avait deux, ce qu'on appelle Amoudé Hora'a. Ils sont Niftarim, les deux, en un an. Pour les Ashkenazim, pour nos frères Ashkenaz, c'était le Rav Eliashiv. Pour les Sfaradim, c'était Rav Ovadia. on a pu voir c'est quoi un roi. C'est quoi des rois? C'est quoi des gens que personne n'ose venir déranger? Et que même les hommes les plus importants du pays, ils sont comme ça devant eux. Alors qu'en soi, ils se battent contre eux, machin, tata, mais à la fin, sans lui, d'accord, deux de ceux qui étaient les premiers à vouloir porter le corps du Ravadia, c'était Shimon Peres et Netanyahu. Il y a les photos. D'accord. Shimon Peres, il a été là-bas jusqu'au moment où il soit niftar. Il a dit, je reste à côté de lui, je ne veux pas le lâcher. Je ne veux pas le lâcher. Mais dis-moi, tu n'as pas de kippa, tu bouffes du cochon. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es battu contre la Torah toute ta vie, tu as tué des juifs. Qu'est-ce que tu veux maintenant avec ce rabbin? Il a 100 ans là. Il te dit en pleurant, c'était mon maître. En quoi c'était ton maître? C'était mon maître. C'était mon maître. Pourquoi? Pourquoi c'était le maître de tout Israël? Pourquoi c'est la seule Evaïa de toute l'histoire où il y a 1 million de personnes qui se déplacent pour y aller? Des types qui n'ont pas de kippa. On a vu encore des photos de Khayalim qui se jettent sur son kever pour l'embrasser. Quand il n'y avait pas encore la pierre. D'accord? Pourquoi c'est une tombe qu'ils ont été obligés de mettre vite la pierre parce qu'ils ont été obligés de la reboucher 3 fois à Botay? C'est assourd. C'est assourd. Mais les gens, ils sont devenus un peu... Ouais. On veut prendre un peu de la terre. Rapporter un peu quelque chose. Parce que vite, ils ont fait venir la tombe. 3 fois, ils ont dû reboucher la terre. Parce qu'à chaque fois, il manquait de la terre. Les gens, ils viennent, ils repartent avec un caillou. Pourquoi il y a eu 1 million de personnes qui se déplacent? Et moi, je veux dire, il y a eu plus qu'un million. Parce que l'1 million, c'est ceux qui ont suivi tout le machin. Et tous ceux qui sont arrivés que pour 5 minutes, qui sont repartis. Azalam, je veux dire une histoire que le Ravlo, il nous a raconté. Ravlo, c'est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, Ashkenaz. Il a raconté qu'il y a un an, il a eu une famille de Modi'in qui n'arrivait pas à avoir d'enfants pendant 5 ans. D'accord? Et ils ont eu un fils. Au bout de 5 ans, ils ont eu un fils. Maintenant, cet enfant, il est né. Et à l'hôpital, ils ont vu qu'il avait un petit défaut physique. Et ils ont dit, si on fait l'opération de suite, c'est bon, c'est terminé, il n'y aura plus jamais aucun problème. Par contre, si vous attendez qu'il grandisse, alors ça posera plus de problèmes, l'opération. Un petit défaut, c'était rien du tout, juste, on lui fait tic-tac l'opération et c'est fini. Et bon, les parents, ils signent qu'ils sont d'accord. Maintenant, les médecins ne se sont pas aperçus, mais pendant l'opération, qui était anesthésie générale, il y a eu une panne d'oxygène dans l'hôpital. D'accord? Et les médecins, ils ne sont pas aperçus. Et le gosse qui venait de naître, il est resté 20 minutes sans oxygène dans le cerveau. Maintenant, ce gosse, c'est un légume. D'accord? Les parents, ils sont complètement... 5 ans pour avoir un enfant. Tu as un enfant, les médecins ils te laissent quinte. On ne fait plus d'enfants. À quoi ça sert de faire des enfants? Complètement déchirés, les parents. Juste pour... C'est quoi la grandeur d'un juif? Pas forcément que dans sa Torah. C'est quoi un père pour tout Israël? Le Ravlo, il a décidé, il a dit, je connais qu'un homme qui peut leur faire un peu de bien. Les après, il a dit, yalla, Rechov HaKablan, Mispar 45, d'accord. On va chez Rav Ovadia. Il arrive chez Rav Ovadia, il monte là-haut, il va le voir, il lui explique le cas. Or, Ovadia, il lui fait les rentrer de suite. Il les fait rentrer. Comme ça, je vous dis, comme ça, nous a raconté le Ravlo, mot pour mot, il était à côté. Il dit, d'un coup, il a dit à madame, il lui dit, assieds-toi à côté de moi. Donc, je vous dis, on parle de Rabbanim qui. Chaque Ben Israël est son fils, d'accord. Assieds-toi à côté de moi. Il dit à madame. Et il dit au mari, assieds-toi à côté de ta femme. Il amène le landau devant lui. Et il commence à caresser le bébé comme ça. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il regarde la femme et il lui dit, te parler des tikkunei neshamot et tikkunei nefashot, ça ne servira à rien. Il lui dit, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le ciel pour comprendre pourquoi Hachem il a fait ça. La seule chose que je sais, c'est que il a besoin de toi. Et que toi, tu as besoin de lui. Et que tu es la seule à pouvoir le comprendre. Et qu'il est le seul à pouvoir te comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de ton ventre. Il lui dit, alors la seule chose que je peux te dire, c'est que tu as besoin de force. Atzrakochot. Tu as besoin de force. De force énorme. Et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et la femme, elle pleurait, elle pleurait. La seule chose que je peux te dire, je te bénis. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne toutes les forces que tu auras besoin pour surmonter cette épreuve. Et après, il regarde le mari, il lui dit, et toi, tu vas aider ta femme. Et tu vas t'occuper d'elle. Et tu vas l'aider. Et toi aussi, je te bénis que tu aies plein de forces pour surmonter cette épreuve. Parce que la seule chose qu'on peut comprendre, c'est que vous avez une épreuve et que ça me fait mal. Le Ravlo, il dit, ils sont sortis de là. Lui pleurait, eux, ils avaient le sourire. Lui pleurait, eux, ils avaient le sourire. À chaque fois qu'un juif, il avait besoin, il se mettait à pleurer à sa place. Ils sont sortis de là, un an après, ils avaient un autre enfant. Celui-là, Misken. Chez Michelach, l'aurait forgé les mains. Aval, ils ont eu une fille un an après. Qui c'est qui leur a donné cette force? Juste la force d'un rabbin qui était capable de maintenant ressentir leur douleur. Ressentir leur douleur. Je connais un cas, juste à gaffe, comme ça, que chacun y prenne en message. Un cas, rien à voir grave, on va dire. J'ai une cousine qui a eu un enfant mort-né à cause d'une erreur médicale, d'accord. Le médecin, il a cru que le bébé, il avait un mois de trop. Il était prématuré d'un mois. Il s'est trompé dans les calculs. Alors quand elle arrivait aux contractions, ils l'ont piqué pour retarder l'accouchement. Et à chaque fois qu'elle avait des contractions, toutes les semaines, ils piquaient pour retarder l'accouchement. On est arrivé qu'elle a dépassé le 10e mois. Alors, si vous savez ce qui se passe dans des cas comme ça, le bébé il mange le placenta et il s'intoxique. D'accord. Mais non, elle part en urgence, il y a du sang partout, il y a du machin. Le médecin, on s'est trompé. On s'est trompé. Bon, elle était dans un état. Et bon, pendant ce temps, ces périodes-là, il n'y a pas de deuil, d'accord. Il n'y a pas de deuil parce que c'était pas un enfant né, etc. Bon, c'est compliqué la période de deuil, mais c'est une douleur qui est terrible parce que. Voilà, eux aussi, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et elle m'a dit, tous les gens qui sont venus me parler, pendant la semaine qui a suivi, j'avais envie de les tuer. J'avais envie de les tuer. Oui, Hachem, des fois, il envoie des nisyonotes, c'est pour telle raison, et pour telle raison, et ça, mais tu sais, on te comprend, et tatati, et tatata. Si tu comprends pourquoi tu parles. Elle m'a dit, le seul qui m'a touché, c'est un rabbin, il est venu, il s'est assis par terre devant moi dans la maison, il s'est mis à pleurer. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est mis à pleurer. C'est presque moi qui étais mal à l'aise de le voir pleurer lui. Elle dit, c'est le seul qui a réussi à me réveiller en moi. Si c'est ça, l'exemple qu'Hachem il fait de ses serviteurs un bseder. Ce qu'il a fait à Hachem, c'est juste. C'est le seul. Tous ceux qui sont venus avec des arguments, avec des machins. J'ai entendu Ram Ovadia. Une fois, je l'ai entendu ça parce que ça avait été enregistré, quoi. Il y a eu une période où il y a eu des attentats en Israël. Rahman Anitslan. Et un homme, il avait perdu son fils dans un attentat. Et la même chose. On entend le Rav Ovadia, il vient au Shiva et il attrape le papa comme ça. Et pareil, il se met à pleurer. Il lui dit, Hachem, il envoie parfois des nisyonot, on peut pas les comprendre. Ton fils, il est parti, on peut pas le comprendre, c'est trop dur, c'est trop dur. De toute façon, on peut pas expliquer une chose pareille. C'est trop dur. C'est trop. Juste, je suis béni. Que tu aies plein de bonnes nouvelles dans ta vie. Que tu aies que des joies. Qu'Akadosh Baruch Hu renverse ta douleur en simha. Et il se met à pleurer avec lui. Mais comment un homme, Ribono Shel Olam, toi-même, ton voisin, il vient te pleurer qu'il a perdu son fils, c'est même pas sûr que tu arrives à pleurer. Il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il sait pas qui tu es, il sait pas ton nom. Tu es juif, tu souffres, je pleure. Tu es juif, tu souffres, je pleure. Donc, chacun il a ressenti. Tous ceux qui ont eu le mérite de le voir, tous ceux qui ont eu le mérite de pouvoir le toucher, tous ceux qui ont eu le mérite de pouvoir discuter avec lui, ils ont ressenti ça. Tiens, juif, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il fallait rendre le Sinaï ou se battre pour le garder? D'accord, vous savez, après la guerre de Kippour, on a conquis le Sinaï. D'accord. Israël a conquis le Sinaï après la guerre de Kippour. Après, il s'est avéré que pour les négociations de paix avec l'Égypte, il s'est posé la question, est-ce qu'on rend le Sinaï ou pas? Ils ont posé la question à Rav Ovadia. Et Rav Ovadia, il a dit, comment est-ce que je pourrais dire que pour un morceau de terre, même si c'est la terre d'Israël, je laisse mes frères juifs se faire tuer? Comment je peux laisser un frère juif se faire tuer pour un morceau de terre? Même si c'est la terre d'Israël. Donc il a été possèque l'alakha, on rend le Sinaï. On rend le Sinaï. Baruch Hashem, grâce à cet acte-là, il y a une paix depuis combien? 30 ans avec l'Égypte. Pas un accrochage en 30 ans. Depuis l'Égypte en tout cas. D'accord. Pourquoi? Comment un juif, on peut regarder, on peut mettre en danger nos frères juifs? Quand? Pour des idéaux qui ne sont pas forcément l'essentiel. Chaque juif, chaque vie de plus, chaque juif qui fait un peu plus de tchouva. D'aller, est-ce que vous connaissez un Gdolador, vous qui part pendant tout le mois de Elul, d'accord, il prend l'hélicoptère, parce que sinon il n'y a pas le temps de faire toutes les villes du pays. D'accord, et pendant tout Elul, il ne s'arrête pas. Depuis la fin de la tefila jusqu'au soir 10h, il part, il atterrit dans une ville, il va, il donne cours, tac, une heure, il remonte dans l'hélicoptère, il repart dans une autre ville, tac, il donne cours comme ça pendant 30 jours. Sans s'arrêter. Que chaque ville dans ce pays, elle ait vu le Rav Ovadia qui est venu lui dire, fais tchouva, rapproche-toi, viens à la Torah, toi aussi tiens Ben Israël, même Tel Aviv. Même Herzliya, même Ranana, même Batiam avec les mafieux. Avec les assassins là-bas. Même Batiam, même Elat. Que c'est pas en Eretz Israël. Même Elat. Même Marseille. Et même Paris. Oui, même Marseille, même Paris, il est allé. Et même, il est parti jusqu'au Mexique. D'accord ? Dans presque tous les pays du monde où il y a des juifs, il est allé. Pour aller leur dire, voilà. Au Mexique, au Venezuela, en Ouganda, partout. partout. Partout où il y avait des keilotes qui commençaient à fleurir, tac, il est parti là-bas. Il faut aller leur donner du machin. Si le grand rabbin d'Israël y débarque, ça leur donne des forces. S'il encourage les rabbanim là-bas à aller donner des cours, ça leur donne des forces. Et avec ça, s'arrêtez pas. Il étudiait. Il rentrait à le soir, le Rav Elbaz, il a raconté une fois, ils sont rentrés ensemble de ce truc là, quand ils partaient au mois de Elul, de ce périple, d'accord, qui partait au mois de Elul. Il a raconté le Rav Elbaz. On allait dans des endroits où je me demande comment il est rentré là-bas. Lui qui est Kulo Kadosh, comment il rentre dans une faculté où il n'y a que des femmes Rahmanan Islan, habillé comme des Tel Aviviennes. D'accord. Il rentrait, il passait la porte de la fac, il enlevait ses lunettes, il regardait par terre, il allait donner cours dans l'amphithéâtre. D'accord. Il dit, après on rentrait. Il a dit, Rav Elbaz, on est rentré à la maison, on est rentré chez lui. On arrive, il était 1h du matin ou 2h du matin. On arrive, la rabbanite, elle les attendait. Il est arrivé, le Rav Elbaz, il a dit, j'ai pas eu le temps de me retourner, qu'il avait déjà tombé la veste, il était assis en train d'écrire. 25 secondes du moment où on est passé la porte. Le Rav Elbaz, il a dit, j'ai pas eu le temps, 25 secondes. Je me suis retourné, il avait plus la veste, il était déjà en train d'écrire sur son livre. Il dit, ma cara la ben adamazé. Il dit, quoi, tout le long, il était encore comment il se met pour écrire? Il dit, moi j'ai besoin de rouvrir le livre, relire ce que j'étais en train de faire avant de commencer à écrire quelque chose. Lui, non, il a tombé la veste, tac, stylo, paf. Ça veut dire que tout le temps, toute la journée, il était là-bas à Tel Aviv et dans la faculté, il était encore dans son livre. Il était encore dans son livre. Et ça ne l'a pas empêché. Ashre enenu shehazu panav. Heureux nos yeux qui ont vu sa face. On dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, heureux, on dit Ashre moladto, Ashre mi shehaza panav. D'accord, heureux celui qui a vu sa face, et heureuse sa mère, ah, juste comme ça, à propos de sa mère. Ça, si vous voulez des enfants talmidei chachamim rabotai, sachez ce qu'il faut faire. Et pour les dames, ils verront le cours peut-être, qu'elles sachent. C'est marqué dans la Gemara, hein. La Gemara, elle pose une question, quel est le sroute des femmes dans le limud à Torah? Vous savez que les femmes n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, sauf ce qui les concerne. Alvaï que nous, en tant qu'hommes, on connaisse tout ce qu'elles doivent savoir, les femmes, avant notre mort, qu'on arrive déjà à voir tout ce qu'elles sont chayées, votre devoir. En tout cas, Alpia, Alakha, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Non, ça, je pose la question. Alors, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a réservé aux femmes un salaire deux fois plus grand dans l'étude de la Torah que les hommes. D'accord? Mais quelles routes elles ont? La Gemara pose la question, quel mérite elles ont, puisqu'elles n'ont pas la mitzvah d'étudier, quel mérite elles vont avoir? La Gemara, elle répond, le mérite qu'elles ont, c'est d'envoyer leur mari et leur fils étudier la Torah. Parce que le plus grand yetzer hara d'une femme, c'est d'avoir son fils à la maison et son mari à la maison. Alors l'envoyer travailler pour quand il y a besoin de la parnassa, ça va, c'est humain. Alstam, qu'il aille étudier au lieu d'être à la maison, c'est un yetzerara énorme pour une femme. Une femme, elle veut son mari près d'elle, elle veut son fils près d'elle, d'accord? Les Tunisiens, ils comprennent ce que ça veut dire, que sa mère, elle veut son fils près d'elle, d'accord? Viens là, mon fils, je t'attache. Ouais. Elle veut son fils près d'elle. Du fait que elle envoie son fils étudier la Torah et elle envoie son mari étudier la Torah, elle a un mérite énorme. Non, un des exemples, c'est Madame Ovadia. Ça s'appelait Ovadia. La mère du Rav Ovadia, son nom de famille c'était Ovadia. Vous savez que le Rav Ovadia, son nom de famille à l'origine c'est Ovadia. Ça s'appelle Ovadia Yosef Ovadia. D'accord? Pourquoi? Parce que son nom en Irak. D'accord? En Irak, le nom de famille c'est le nom de ton père. Donc en vérité, chaque génération, ton nom de famille change. Comme encore aujourd'hui, l'Avdil, les Arabes, ils s'appellent au nom de son fils. Ici, les Palestiniens, par exemple, tu vas t'appeler un nom, je sais pas, Mohamed, pendant tant que tu n'as pas de fils. Dès que tu as un fils, je sais pas, il s'appelle Mazen, de Mohamed, on va t'appeler Abou Mazen, le père de Mazen. Tu t'appelles plus Mohamed, tu t'appelles Abou Mazen. D'accord ? Le père de Mazen. À l'époque, chez nous, c'était la même chose, mais à l'envers. Tu t'appelles au nom de ton père. Donc maintenant, le grand-père de Ravadja, il s'appelait Ovadja.
Normal.
Son prénom du grand-père, c'était Ovadja. Le père du Rav Ovadja, il s'appelle Yaakov. Donc le Rav Yaakov, il s'appelait Yaakov Ovadja, au nom de son père. Alors, le Rav Ovadja, vu qu'il est encore sous la tutelle de son père, il s'appelle aussi son nom de famille Ovadja, tant qu'il ne s'est pas marié. Une fois qu'il se mariera, qu'il aura des enfants, lui, il s'appellera hein, Ovadja Yosef Yaakov, comme son père. Alors, ils sont arrivés en Eretz Israël, ici, sont arrivés avant la création de l'État, c'était les Anglais, et ici, non, on a un nom de famille fixe, à l'européenne, d'accord, à l'occidentale. Tiens, un nom de famille fixe, hein, casé d'avoir que tu vas changer de nom, et comme ça, bah, être trop facile, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que le nom de famille définitif des Ovadia, ça s'appellerait Ovadia. Maintenant, lui, Misken, il s'appelle Ovadia Yosef Ovadia. Est-ce que ce que lui faisait? Il signait tout le temps. Ovadia Yosef Ben Yaakov. D'ailleurs, c'est Yabia à l'envers. Ovadia Yosef Ben Yaakov. Yabia Omer. Et Omer, Gematria Ovadia Yosef. D'accord? Donc, Yabia Omer, le nom de son livre, Ovadia Yosef Ben Yaakov. Et tout le temps, il signait Ovadia Yosef Ben Yaakov. Du coup, son nom, c'est devenu Ovadia Yosef. Ouais, il a enlevé le nom de famille Ovadia. Maintenant, sa mère, elle s'appelait Ovadia, donc en nom de famille. Elle a vu que son fils, il avait du sipouk pour l'étude de la Torah. Beaucoup, il étudiait sans cesse, sans s'arrêter, dès qu'il était petit. Maintenant, quand il y a eu la famine en Eretz, son papa, il lui a demandé, viens travailler avec moi au magasin. On a besoin d'argent. À l'époque, ça se passait comme ça. C'était pas comme aujourd'hui que... D'accord, les enfants, surtout pas les toucher, faut surtout pas les machins... Il y a besoin d'argent, ben même que tu as 8 ans, ben, tu viens de travailler avec ton père. T'as de mal à saute. Il faut te nourrir, non? Donc, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle faisait, la maman? Elle se levait encore plus tôt. Et tout ce que le père il avait demandé la veille au Rav Ovadia de faire, elle faisait tout. Pourquoi? Je veux surtout pas qu'il arrête d'étudier. Moi, je veux surtout pas qu'il arrête d'étudier. Je vais, moi, travailler. Comme une esclave, s'il faut. Mais mon fils, il arrêtera pas d'étudier. Et comme ça, elle a fait, et toute sa vie, elle était derrière à le pousser en train d'étudier. À quel écart que quand le Rav, il a eu le, vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui le frac, donc la tenue du Rav, il a eu très jeune, hein, 20 ans, un truc comme ça, ouais, il a, déjà la tenue du Rav, quand il a reçu cette tenue, il a fait, à l'époque, il faisait une petite cérémonie à la maison, parce que c'était vraiment des rabbanim qui mettaient ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tout jeune Hatan, il prend ça. Ces rabbanim, ils lui ont dit de mettre le frac, man. À l'époque, c'était vraiment que les rabbins qui mettaient ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se marie, il met un frac.
C'est la marocaine, non? Genre, quand tu le vois sur les photos, il est...
Non, ça, c'est le tenue du Rishon Etzion. Et le Rav Ovadia, à la maison, il était tout le temps en costume noir, comme ça.
Oui,
en chapeau.
Quand il sortait.
Quand il sortait aussi. Quand tu vois les photos quand il était Bachor, il était en costard avec le chapeau.
Il est habillé avec.
Non, ça c'est la tenue du Rishon Etzion.
C'est quoi
il avait quoi?
C'était son titre de promu des sages de Sion. Quand il est devenu grand rabbin d'Israël, le Sfaradi, il s'habille comme ça. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il a. Ça, donc ça, quand il a reçu cette tenue, il a dit: je la mets pas tant que ma mère elle est pas dans la pièce.
Voilà.
Pourquoi? Tant que ma mère elle est pas là. Vous allez chercher ma mère, je veux que ma mère, elle ait la satisfaction de voir son fils qui est devenu un rave. Pour tout ce qu'elle a, elle a trimé pour ça, je veux qu'elle ait cette satisfaction. Il raconte que quand il y a eu les shloshim de sa mère, juste comme ça, c'est plus sur lui là, c'est sur sa mère, mais quand il y a eu les shloshim de sa mère, elle a, il dit que pendant les 30 jours, ça va te plaire, pendant les 30 jours, ah non, toi c'est pas une colombe. C'est une tourterelle. Pendant les 30 jours... Ah oui, c'est ça, une tourterelle. Pendant les 30 jours, il y a une tourterelle qui est venue se poser sur sa fenêtre à côté de lui pendant qu'il étudiait. Le 30e jour, des Shloshim, la tourterelle n'est plus jamais revenue. Quand il a été nommé grand rabbin de Tel Aviv, c'était bien des années plus tard, lui, il avait oublié cette tourterelle qui était venue se poser. Ils l'ont nommé grand rabbin de Tel Aviv, dans la grande synagogue de Tel Aviv, machin et tout. Et donc, le grand rabbin, maintenant, il va faire un discours. D'un coup, tourterelle qui rentre par la fenêtre, qui se pose en face de lui, sur la bima, et qui reste comme ça, tout le discours. Dès qu'il a fini le discours, tac, la tourterelle est repartie. Et d'un coup, il s'est rappelé. La tourterelle d'il y a 10 ans auparavant, c'était la même. Il a dit, Ani Batouah, que cette tourterelle, c'était la neshama de ma mère, qui est venue écouter son fils quand il est devenu un grand rabbin. Ah non, Rabotai. Un homme qui est Kulotora. Kulotora. Mianachnu la Spidoto. Qui on est pour pouvoir dire des éloges? D'accord. Afilou la poussière sur laquelle son cheval, il aurait fait son crottin, on n'est pas. D'accord. On n'est rien du tout. Un monsieur qui a sacrifié toute sa vie, que pour la Torah et que pour le peuple d'Israël. Toute sa vie que pour ça. Chaque instant, pas un instant, on va arrêter pour protéger. Son truc, c'était la Agunot, d'accord. Toutes les histoires sont connues d'Agunot qu'il a fait le Rav Ovadia. La Agunot, c'est les femmes que leur mari a disparu. On n'a pas de preuve qu'il est mort, du coup, elle ne peut jamais se remarier. D'accord. Parce qu'elle n'est pas veuve et elle n'est pas divorcée. Donc, elle ne pourra jamais se remarier. Combien il a planché des journées, des nuits, au risque de sa vie, à en perdre ses yeux. Combien il a planché pour trouver des permissions. Comment on peut laisser une femme qui va rester sans mari, qui va pleurer toute sa vie parce qu'elle ne peut pas se remarier. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est monté, comme ça on a un peu ressenti, Bémet, je ne sais pas si vous étiez là quand il était malade, d'accord, Soukot. C'est qu'à Soukot, on ne dit pas ni Tachanounim, ni rien du tout. Soukot. Quand Rav Ovadia, il est rentré à l'hôpital hein, où c'était très grave, là, tous les rabbanim, ils ont annoncé d'annuler toutes les fêtes de Soukot, d'aller au Kotel faire les Slichot. Pendant Soukot. Bon, donc c'était très grave. Maintenant, le Kotel, en 2 heures de temps, 300 000 personnes.
Là,
ouais, ce Soukot. Qui ont débarqué pour prier pour le Rav. Makara, putain. C'est écrit que quand le Moshe Rabbeinu, il est monté Bashamaim pour récupérer la Torah, il a dû se battre contre les anges. D'accord. Et c'est marqué dans la Gemara qu'il a arraché la Torah aux anges. Qu'il leur a volé. C'est marqué dans... Quand un tzadik qui meurt, on dit « Les anges nous ont vaincus. » Rahman et Islam. Les malachim, ils prennent leur vengeance. Moshe Rabbeinu, il leur a volé la Torah écrite. Il dit « La Torah, vous les anges, vous êtes incapables de l'appliquer. Elle vous sert à rien. » Elle vous sert à rien. Donc cette Torah, elle est pour nous. Pour nous les hommes. Et il leur a arraché la Torah. C'est marqué dans la Gemara. On dit quand un tzadik qui part, les anges nous ont vaincus. Bémet, quelqu'un qui était là pendant cette période, on a pu ressentir une chose pareille. Le peuple d'Israël, il attrapait la Torah. Il disait à Hachem, ne la prends pas. Ne la récupère pas. Vous savez que c'est écrit quelqu'un qui se lève, c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui se lève devant un Sefer Torah et qui ne se lève pas devant un Talmud Chacham, et nous, elle a tipèche. Ou choté, là-bas, c'est écrit. Ou il est fou, ou il est débile, d'accord. C'est marqué, quelqu'un qui se lève devant un Sefer Torah et qui ne se lève pas devant un Talmud Chacham, alors il est complètement abruti. Pourquoi? Ah, je me lève devant le Sefer Torah. D'accord, on connaît tous des juifs comme ça, que devant le Sefer Torah, mais le rabbin presque il lui crache dessus. Hein. Mais le Sefer Torah, ah, la Gemara dit exactement l'inverse. La Gemara dit exactement l'inverse. Celui qui pense comme ça, il est un abruti. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah, il est mort. C'est quoi le Sefer Torah? C'est une vache qu'on lui a fait une shrita. On a pris sa peau, on l'a coupée en deux dans la profondeur. On l'a tannée. On a pris des bambous ou de la noix de galle, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est une excroissance du chêne. Qu'on a fait brûler pour faire sortir de la suie. Et avec cette suie-là, on a rajouté de la gomme dedans. On en a fait de l'encre et on a écrit dessus. Mais tout est mort. C'est ou du brûlé ou une peau morte. Aval un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. C'est un Sefer Torah vivant, à lui tout seul. Et quel plus grand Sefer Torah qu'est-ce qu'on a vu dans notre génération? Un homme qui connaît tout sur tout. Il n'y a pas de question, aucune question qu'il a laissée de côté. Vous prenez le Yabiya Omer, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je vous dis, toutes les questions que vous pouvez avoir dans votre vie, elles sont posées là-bas. Toutes, dans tous les domaines de l'Alakha, il n'y a pas un domaine qui n'a pas été touché. Dans tout. Et les gens proches de lui, ils disent, et c'est pas pour ça qu'il voulait être connu, donc c'est pour ça, c'est bien pour ça qu'on ne le fait pas connaître pour ça, mais au passage, les gens qui sont proches de lui, ils disent qu'il y a des cartons entiers aussi sur la Torah Tanistar. D'accord? Sur la Torah cachée. Des cartons entiers décrits à la maison. Bien qu'on dit qu'il ne faisait pas l'alakha selon la Kabbalah. Oui, parce que l'alakha, c'est l'alakha, la Kabbalah, c'est une autre chose. L'alakha, c'est l'alakha. Dans tout, il a touché, il connaissait tout. Un Sefer Torah vivant. Bémet, on a senti ça. Les anges, y prenaient leur revanche. Le peuple d'Israël, il était là. Hachem, on a besoin de lui. Maintenant, comment on va faire? Toutes ces agounotes, elles vont faire comment maintenant? Il n'y a plus personne qui pourra les permettre. Terminé. Aujourd'hui, Avonoté Noir Abim, une femme, elle ne trouve plus son mari. Terminé. Il n'y aura plus personne au monde qui peut la permettre. Le seul au monde qui faisait ça, c'était lui. Imaginez-vous les conséquences que ça peut avoir, une perte pareille. Nous dit le... Quelle heure il est ? 7.
7.
Nous dit le Rav Shmuelevitch. Je me souviens même, c'est le Rav Shmuelevitch. Il dit, pourquoi ? Les bénis Israël, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu pendant 30 jours, d'accord ? Il nous dit, le Rav Shmuelevitch, pourquoi un gadol, il s'en va ? Pourquoi un gadol, il s'en va, Rabotai ? Avant 120 ans. Avant 120 ans. Hazvi Shalom, on va pas commencer à faire les dépressifs et les machins. Pourquoi un gadol, il s'en va ? Parce que Hachem, il dit la même réponse que Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Pourquoi ? Vous lui crachez dessus. Vous le méprisez. Vous le machin. Si, ça. Ah, c'est le Rav Ovadia, il a dit. Combien on a entendu des rabbins en France ? C'est qui Rav Ovadia ? C'est qui ? D'accord. Combien on a vu des NAI, il m'a raconté là ce matin. Un Rav, il lui a dit. Il était dans un Bet Midrash. Le Rav, il lui a dit. Il a dit, oui, mais le Rav Ovadia, il n'a pas dit comme vous. Il lui dit, je t'interdis de prononcer son nom dans mon Bet Midrash. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, il était au Kever, là. Tous ceux qui vont au Kever, vous pouvez aller maintenant au Kever, vous verrez le nombre de rabbins qui viennent lui demander pardon. Qui viennent lui demander pardon. Ils prennent 10, parce qu'il y a 50, 100 par jour, là-bas, toute la journée, non-stop, 24 heures sur 24. Donc, vous allez là-bas, vous verrez, il y a tout le temps des gens, des rabbins qui viennent, ils demandent 10, je veux 10 là maintenant, un minyan, mehila, que j'étais mezalzel. Pourquoi ? Parce qu'il avait un pouvoir de permettre. Et on sait comment c'est. Là. Le monde orthodoxe, il est très... On veut... Dur à changer certaines choses, d'accord ? Et souvent, la permission, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'on a peur que ça arrive à des dérives. Maintenant, combien le Rav Ovadia, grâce à ses permissions, il a sauvé des juifs qui ne seront pas considérés comme des rechaïm, grâce à ses psakim ? Grâce à ses psakim ? Par exemple, d'après Rav Ovadia, un juif qui s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia, en public, c'est un juif qui sait pertinemment ce qu'il fait, d'accord, et qu'il fait pour se révolter contre la Torah. Mais s'il a été éduqué comme ça, il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, qui compte minyan, que machin, que ci, que ça. Combien il a été mézaké le rabbi? Juste, Stam, qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? Pourquoi on peut prendre? Pourquoi on doit? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? On sera jamais Rav Ovadia. D'accord, oublié. Déjà, à 9 ans, il était plus grand que nous tous réunis. Avec tout ce qu'on a pu apprendre dans toute notre vie jusqu'à présent et tout ce qu'on apprendra jusqu'à 120 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tout le monde dit la Torah. Je suis peut-être un outsider. Alors, moi, personnellement, c'est pas ça que on peut prendre. Ahavat Israël. L'amour qu'il avait pour chaque juif, Rabotai. L'amour qu'il avait pour chaque juif. Avec la Torah. Hasve Halila, de ne pas devenir un, n'importe quoi. D'accord. Et, viens, viens, on va s'aimer. Ouais. Non, on ne parle pas de ça. D'accord. On ne parle pas de ça. L'amour qu'il avait pour chaque juif. Et du coup, c'est un carnage qu'un juif, il n'ait pas de Torah. C'est un carnage qu'un juif, il n'ait pas de Torah. C'est pour ça que depuis qu'il y avait ces xérotes-là, il pleurait du matin au soir. Comment on peut oser supprimer la Torah d'Israël? Comment on peut oser supprimer cette Torah? Dire aux Bachourim d'arrêter d'étudier la Torah. Mais si tu veux qu'il y ait des rabbanim qui enseignent le peuple d'Israël, il faut qu'il y en ait 1000 qui rentrent à la yeshiva pour qu'il y en ait un qui sorte enseigner. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. 1000 qui étudient pour qu'un réussisse à arriver au niveau d'enseigner. Mais si tu les enlèves les 1000 parce qu'ils sont pas capables d'arriver au niveau d'enseigner, même celui-là il n'y arrivera pas parce qu'il n'aura pas toute l'ambiance autour pour y arriver. Alors comment on fait? Et il se met à pleurer. Par amour pour Israël. Chéniske Bezrat Hashem, de prendre ne serait-ce qu'un millième, il reste quelques heures. Jusqu'au Shloshim, c'est marqué qu'on peut, tout celui qui veut prendre, quand un tzadik qui meurt, les midot, elles sont rendues efker. Alors tout celui qui veut, il peut venir et il prend tout ce qu'il veut. Chéniske Bezrat Hashem.